Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Dans 6 semaines, ce sera Noël et tout le monde se demande comment passer ses fêtes en famille, en petit comité, sans courir le risque d'un rebond de l'épidémie, alors que jeudi, le Premier ministre parlait d'un possible allègement du confinement à ce moment-là, et que ce matin, Emmanuel Macron, dans un tweet, dit que les prochains jours seront décisifs et rappelle les gestes barrières, comme le masque, aérer ou se laver les mains. Bonjour professeur Renaud Piarou.
Bonjour.
Chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, grand spécialiste de la gestion des épidémies, notamment l'épidémie d'Ebola. Vous venez d'écrire un livre, je dois dire, passionnant, La Vague, aux éditions du CNRS, l'épidémie vue du terrain. C'est en quelque sorte un journal de bord sur votre quotidien lors de la première vague de mars à avril, la déferlante à l'hôpital, la mise en place du contact tracing pour éviter les contaminations et ses limites d'ailleurs. On y reviendra pour voir quelles leçons on peut en tirer lors du prochain déconfinement. Mais d'abord, je sais que vous sortez d'une réunion à la PHP. J'ai juste envie de vous demander, vous qui m'avez dit que vous étiez en quelque sorte celui qui faisait la météo de l'épidémie, on en est où de cette deuxième vague? Il y a une éclaircie, encore des gros nuages?
Alors... On pourrait dire qu'il y a beaucoup de gros nuages sur la France, avec une éclaircie dont l'épicentre est Paris. La baisse de la transmission est assez marquée sur Paris actuellement, donc c'est une bonne nouvelle.
Ça se traduit comment? Vous m'avez dit les indicateurs repassent au vert en amont.
Voilà, ben après c'est une manière de le dire, mais ben on a des courbes qui descendent hein, sur les nouveaux cas. Alors il y a les indicateurs précoces, c'est les nouveaux cas, c'est les appels au SAMU, c'est les appels à SOS médecins qui sont en baisse. Donc c'est intéressant. Là je parle de Paris, de l'Île-de-France, je parle pas de l'ensemble de la France. Et puis on commence à voir une stabilisation des hospitalisations. Et les indicateurs plus tardifs, par exemple le passage en réanimation, reste encore, le nombre de patients en réanimation est toujours en train d'augmenter.
Vous
et
qui...
sur la France, c'est plus en retard et on commence à peine à voir des signes dans certaines régions de baisse des nouveaux cas, mais on n'a pas encore du tout la répercussion sur les hospitalisations et encore moins sur les réanimations.
Justement, vous qui observez depuis le début la dynamique de cette épidémie, qu'est-ce qui vous étonne dans cette deuxième vague, puisqu'on a vu des régions particulièrement touchées, la Lozère, l'Aveyron, des zones rurales qui avaient été épargnées lors de la première vague, et que le professeur Delfrécy disait il y a quelques semaines encore que ce virus était un virus des grandes villes?
Oui, alors on est effectivement quand même, on en apprend tous les jours. Je trouve que effectivement, ça nous permet de mieux comprendre, d'observer de très près, de l'intérieur, cette épidémie. Et l'événement, deux choses sont marquantes. Effectivement, l'atteinte des zones rurales, qui est quelque chose qui n'était pas particulièrement anticipé, même si personne n'a dit les zones rurales ne seront jamais atteintes, mais elles sont quand même fortement atteintes. Et le lien qui semble de plus en plus évident, à la fois dans le temps et dans l'espace, avec la température. Si vous regardez les zones les plus touchées, c'est souvent des zones plus froides que les zones moins touchées actuellement.
Et l'hiver arrive, donc on imagine que ça aura son importance.
Et winter is coming.
Alors parmi les outils dont on nous parle beaucoup en ce moment pour lutter contre cette épidémie, pour éviter les contaminations, il y a les tests antigéniques qui vont être particulièrement déployés cette semaine dans les établissements scolaires. 1 200 000 tests, a dit Jean-Michel Blanquer jeudi. C'est ça la solution, la bonne stratégie?
Oui, il n'y a pas déjà de solution. La solution avec un L majuscule n'existe pas. Alors, ça peut avoir un intérêt, effectivement. Si
on va rappeler, c'est des tests où il y a un prélèvement nasal, on a les résultats en 30 minutes, mais ce n'est pas les fameux tests PCR qui permettent de faire le diagnostic de la maladie.
C'est le même prélèvement que les tests PCR, mais l'analyse est plus simple à faire derrière. Par contre, elle est moins fiable.
C'est-à-dire
que quand vous avez un test antigénique positif, ça va, ça veut dire que vous devez vous isoler, il faut prendre toutes les mesures, etc. Vous êtes atteint par la COVID-19, donc c'est une bonne valeur prédictive positive du test, c'est comme ça qu'on le dit. Quand le test est négatif, en fait, on peut pas dire grand-chose. On peut toujours, et puisque ce test manque de sensibilité, il loupe des cas. Et donc, particulièrement si le test n'a pas été fait dans les conditions archi-optimales, c'est-à-dire au tout début des signes cliniques, pendant les 2-3 premiers jours d'apparition des signes cliniques, on peut louper souvent des cas.
Donc, alors quel intérêt si on peut louper souvent des cas ?
Alors l'intérêt, c'est que ce test soit fait sur des personnes qui ne seraient pas allées vers les structures de soins.
Et, donc des gens qui n'ont pas de symptômes, par exemple,
voilà,
comme dans les établissements scolaires.
Qui n'ont pas de symptômes et qu'on trouverait finalement de manière un peu fortuite en disant, bon, ben, on fait des tests régulièrement sur tel ou tel, par exemple sur des lycées, et on s'aperçoit que on trouve un certain nombre de cas, et à ce moment-là, on se dit, il y a un problème et il faut aller plus loin dans l'investigation de ce problème.
Mais par exemple, si je suis malade, ce n'est pas le test qu'il faut faire. Il ne faut pas aller en pharmacie
faire
un test anti-GTI.
Ne faites pas ce test-là. Si vous êtes malade, et que vous, sauf s'il n'y a pas d'autres possibilités, la Haute Autorité de Santé dit, bon, si vous n'avez pas de possibilité de faire une PCR et qu'on est dans les 3 premiers jours de la maladie, bon, faites comme ça. Sinon, faites une PCR parce que vous louperez moins de diagnostics, et donc la réponse est quand même beaucoup plus fiable.
Professeur Renaud Pierroux, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment passer Noël en petit comité, alléger peut-être ce confinement. Donc en gros, comment se déconfiner sans courir le risque d'un nouveau rebond ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ?
Alors déjà, on sait que Noël est une période dans les épidémies respiratoires, est une période vraiment qui sert de brassage et qui fait que à la sortie des vacances de Noël, on a régulièrement un pic d'infection respiratoire de type grippe, hein, ou rhinovirus, etc. Donc on connaît cette dynamique particularité qui forcément existera. Voilà, qui est quand même quelque chose de plus important à cette période-là. Tout dépend déjà du niveau où on est au moment d'entrer dans cette période, et ce niveau sera peut-être pas le même selon les régions. Si on est très bas, bien, quand on fait un repas à quelques personnes, il y a toujours des risques, mais il reste gérable. Si on a un très haut niveau, ça va être compliqué de gérer justement ces repas, parce que c'est à la fois un brassage de population.
On enlève son masque.
Deuxièmement, on enlève son masque, on fait la fête, ça dure des heures, et tant mieux. Et en plus, c'est un brassage intergénérationnel. Donc, il faudra quand même être très vigilant. De toute façon, Noël ne sera pas la même chose que les autres années.
Une chose qui est très importante pour vous, vous me l'avez répété, pour vous, se tester, se dépister, c'est absolument primordial si on a le moindre symptôme, même si on n'a pas de fièvre, par exemple. C'est-à-dire, si j'ai un rhume de main, pour vous, il faut se faire dépister.
Oui. Si vous avez un rhume, non seulement il faut vous faire dépister, on dit même il faut vous isoler d'abord et prendre un rendez-vous pour être testé, pour être dépisté. Au minimum, il faut se mettre à redoubler de précautions. Si vous êtes malade, vous restez chez vous, quoi.
Bien sûr.
Mais si vous avez juste des symptômes mineurs, il faut vous tester. En attendant le test, il faut par exemple, supprimer toute pause café avec les collègues, si vous travaillez, si vous n'avez pas le choix. Il faut ne pas prendre de repas avec d'autres personnes. Et à l'intérieur de la famille, c'est pareil. Garder une certaine distance si vous avez autour de vous des personnes qui sont susceptibles d'attraper la maladie, et encore plus si elles sont vulnérables. Donc, dès qu'il y a des symptômes, même un rhume, dans ce contexte-là, les rhumes sont assez souvent des coronavirus, enfin le Covid, parce qu'il y a encore d'autres coronavirus qui donnent des rhumes, il y a d'autres virus, mais dans le contexte actuel de l'épidémie, avoir un rhume actuellement nécessite qu'on fasse la vérification si ce n'est pas la Covid-19.
Merci beaucoup, professeur Renaud Pierroux, rappelle, chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et je rappelle le titre de votre livre, La vague, l'épidémie vue du terrain, aux éditions du CNRS. Et on a bien compris que pour éviter le rebond au moment des fêtes de Noël, il y a encore beaucoup de travail, et évidemment ces gestes barrières impérativement à respecter. Je sais que c'est votre leitmotiv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.
Et le lavage des mains.
Le lavage des mains, on l'a bien compris. Merci beaucoup.